Voilà, donc la lama vous demande quoi entendre maintenant, c'est-à-dire soit quelques mots qui se rapportent à l'enseignement qui a été donné, soit quelque chose d'autre. Qu'auriez-vous envie d'entendre? Vous avez peut-être aussi envie de poser des questions. Oui, ou alors on peut vraiment faire une question, session de questions-réponses. C'est rare hein, d'avoir du temps pour ça, donc peut-être en profiter. Oui, tu vois, Tuna? Oui.
J'aurais
une question. Tout à l'heure, vous avez fait une métaphore pour le siège dans la maison ou la perception de la conscience. J'ai du mal à concevoir ça en rapport à la non-dualité et à l'individu. Parce que j'essaie d'imaginer, c'est est-ce qu'il y a plusieurs maisons avec les sièges dans chaque maison, c'est-à-dire chacune d'entre nous, ou est-ce qu'il y a une maison avec plusieurs sièges à l'intérieur de la maison?
Ta tenin shopa lama la gisung du indu tene namshe ta tso dug yama na tso ge yore yena indu tene tso wo tene namshe chi ge yore re wala tene piwu karna la namshe re wala piwu tene re wala tene re wala tene kong gise gudu indu tene nga tso mi re 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 wala tene sem re re yore yama na indu tene mi re re gi sem tene sem chik parebe. En fait, la base fondamentale, on pourrait dire, de l'esprit de chacun est la même. Non, en fait, il y a une formule qui dit une base, deux chemins, deux fruits. Voilà, c'est une manière de dire que même si la nature ou la base fondamentale de l'esprit est identique, eh bien, deux chemins de fruits, ça veut dire qu'ensuite, eh bien, à partir de cette conscience qui est la nôtre, soit nous l'entraînons dans la perception illusoire, et dans ce cas-là, eh bien, le fruit est un fruit qui est lié à la souffrance, en fait, soit nous l'entraînons dans un chemin qui est libre de la confusion, progressivement, évidemment, et dans ce cas-là, le fruit est le bonheur, en somme. Mais en fait, ça revient à ça. C'est-à-dire la base fondamentale de chacun, ou de l'esprit de chacun, est d'une même nature. Sous-entendu éveillé. Pena ngatsogi tsorwa ngatsogi namto tene indu mi rere la tene tsorwa rere yore namto rere yore yamena indu tene tsorwa tang namto indu tene chikwa chikyan re
tsorwa chikwa chikyo mare namto yang chikwa chikyo mare ba
laso. Non, il y a une singularité en même temps. C'est-à-dire qu'on a des sensations particulières et nous avons des phénomènes mentaux particuliers en fonction de chaque individu. Non. Oui, parce que là, nous évoquons, nous faut évoquer la notion de conditionnement qui est liée directement à la causalité, mais le conditionnement est lié aux tendances aussi. Et donc, en fonction de ces différentes tendances, nous aurons, et c'est ce qui est, on pourrait dire, la part singulière de chaque individu, eh bien, nous aurons des sensations et des phénomènes mentaux qui seront différenciés.
Tu me dis zombo dans n'emba yapo da dopo se ya da vodi yo wa.
Na so.
Te yo so so ke zedon. Zo zedon de ra le wa penna.
Mais en même temps, dit Lama, par exemple, l'idée même de quelque chose qui est excellent, qui est mauvais, ça vient de ce qu'on appelle dintang, c'est-à-dire la manière de saisir. Et la manière de saisir, c'est la façon dont, personnellement, nous appréhendons les choses.
Non.
Même si, prenons l'exemple d'un homme ou d'une femme, même si cet homme ou cette femme peut communément être considéré comme agréable à percevoir ou pas, il n'empêche que cette idée de beauté qui est peut-être perçue, elle est aussi du ressort de chaque individu qui en a une certaine vision. Et puis évidemment, il y a aussi le fait que, eh bien, il est possible que même des individus ne verront pas cette personne comme
attrayante. Non.
Pareil avec les objets. Il y a des objets qui vont paraître attrayants à certains et donc qui ne paraîtront pas attrayants à d'autres.
Non.
Donc, c'est des exemples très simples, mais pour dire qu'il y a des modes de perception qui sont chaque fois singuliers et qui donc qui sont propres à l'individu. Une fleur peut être vraiment appréciée par quelqu'un et quelqu'un d'autre peut vraiment ne rien trouver de particulièrement beau dans cette fleur-là. La même, pourtant.
Oui,
donc encore une fois, même si la base fondamentale de l'esprit, ce qui est un sous-entendu pour parler de la nature éveillée, est, on peut dire, la même en termes d'essence ultime, il n'empêche qu'il y a une perception singulière des choses, encore une fois, due à nos différents conditionnements. Oui, voilà ce qu'on peut dire de ça. Oui.
C'est une question plus générale sur les initiations.
Oui.
Je voulais savoir quels engagements l'initiation demande à celui qui est initié.
Oui.
Il y a un engagement par rapport au maître spirituel qui donne cette initiation.
Oui.
Et quelle est la relation entre l'initiation et la recherche de l'éveil, l'obtention de l'éveil?
Vous avez compris dans le fond la question? D'accord, donc c'est une question sur l'initiation, sur quel est le type, je vais réduire, sur quel est le type de lien que l'on a avec une initiation, quel type de lien on peut avoir avec le maître qui nous transmet une initiation, comment une initiation, on pourrait dire, prend place dans l'idée d'obtenir l'éveil. Non. Alors déjà, évidemment, qu'une initiation intervient dans le contexte du véhicule tantrique.
Non, Jungkinga, she shivered. Take she the Tomboshi, the man at the Namak, then in Tata, then they gum your eye, and they gum your eye, and this is some your eye, then they just some your eyes and a love good.
C'était some good. Non, alors déjà, quand on, une fois qu'on a dit ça, il faut vraiment comprendre qu'une initiation, c'est en soi-même un processus. Et un processus où à la fois celui, celle qui donne l'initiation et celui, celle qui reçoit l'initiation ont un travail à faire, dans le sens où le maître spirituel qui donnera l'initiation, eh bien, doit en même temps la prendre avant de la donner. Il doit donc, pour cela, opérer différentes étapes qui lui permettent de le faire. Ensuite, la personne qui prend cette initiation doit savoir comment la recevoir. Et le comment la recevoir, on s'en rend compte dans une initiation, quand le maître qui transmet l'initiation explique chaque étape en disant « maintenant vous devez méditer cela, maintenant vous devez considérer cela, etc. » Donc il y a vraiment un travail à deux qui se fait. Non, un autre point fondamental, c'est, et là c'est une remarque générale pour les initiations, c'est-à-dire le maître d'initiation à ce moment-là, il n'est plus vu dans sa dimension ordinaire, il est vraiment vu comme indifférencié de la déité. Au moment où on est dans le moment de l'initiation, nous avons affaire donc directement à la déité indifférenciée du maître spirituel. Les substances d'initiation, torma, diverses substances qui vont servir au rituel d'initiation, elles sont aussi indifférenciées de la déité. Par exemple, certains supports vont être le palais incommensurable de la déité. Donc là, c'est nous qui le percevons dans cette dimension-là. Mais ça veut
dire...
Ça suppose que... Bien, c'est pour ça que c'est vraiment un contexte antrique. Ça suppose qu'à un moment donné, la personne qui prend cette initiation, on va lui indiquer, c'est le maître d'initiation qui le fera, lui indiquer de se prendre dans le sens de se considérer comme étant la déité. Vous êtes à ce moment-là Chenrezi, vous êtes à ce moment-là Sangemenla, donc l'identification, elle se fait sous la forme de la déité et non plus sous sa forme ordinaire. Ensuite, eh bien, l'on va être introduit aux différentes phases de l'initiation, hein, en précisant que de la lumière jaillira du front, de couleur blanche, rouge depuis la gorge, bleu nuit depuis le corps, le cœur en général, et qu'ensuite, eh bien, que ce soit un yidam ou que ce soit une forme d'un maître spirituel dont l'initiation est donnée, bref, on va ensuite penser que nous recevons alors respectivement ces différentes formes de lumière au niveau de notre front, de notre gorge, de notre cœur. Nous sommes à ce moment-là la déité. Au moment où nous recevons cette lumière qui représente l'initiation du corps, eh bien, on va penser que toutes les négativités, les voiles, sont purifiées du corps. Non. Et en fait, cela implique que dans le chemin, c'est-à-dire dans la pratique spirituelle, nous recevons le pouvoir, l'idée d'initiation, nous recevons le pouvoir de méditer notre corps comme le corps de la déité.
Mm-hmm.
Alors, là, il nous faut revenir dans des temps anciens où il y avait des rois. Le roi manifestait son pouvoir par sa couronne. Et donc, quand il était question d'introniser le prince et de lui donner le pouvoir de la royauté, on allait donc prendre, quoi, le roi allait prendre sa couronne et la mettre sur la tête du prince, de la princesse, bref, pour symboliser là la passation du pouvoir. À ce moment-là, il recevait, ou elle recevait, les pleins pouvoirs de la royauté, donc la possibilité d'exercer un pouvoir royal. Même si l'on était fils de roi, non, eh bien cela ne donnait pas la possibilité, avant d'avoir reçu le pouvoir, de pouvoir exercer le pouvoir royal. Nous n'avions pas à ce moment-là le pouvoir de l'exercer. Non. Donc en fait, le processus d'initiation, c'est un confère de pouvoir, au même titre qu'une intronisation dans ce sens où nous recevons un pouvoir à ce moment-là. Et en l'occurrence, eh bien, par rapport à l'initiation du corps, d'une part, cela va purifier nos voiles et négativités, mais d'une part, et d'autre part, cela nous donne donc le pouvoir. C'est pourquoi on nous octroie à ce moment-là le pouvoir que nous recevons de méditer son corps comme le corps de la déité et notre propre corps comme aussi l'emplacement, on pourrait dire, de la déité et de son entourage. Donc, il y a là un surcroît de pouvoir du fait même de l'initiation, et donc nous recevons encore une fois ce pouvoir de se méditer ainsi.
Non.
Voilà, après, c'est là où ça se joue à deux, c'est-à-dire qu'à la fois le maître d'initiation introduit à cela, mais nous devons le penser. En tant que personne qui recevons cette initiation, donc le vivre complètement ainsi. La personne qui nous introduit dira « pense cela, médite cela » et à nous de le faire. Non. Et toutes les substances, quand on parle là des substances d'initiation, c'est les différents objets rituels, en fait, de l'initiation qui vont être utilisés. Ça pourra être une torma, ça pourra être des tzaglés, c'est des représentations graphiques. Bref, chacun de ces instruments, pourrait-on dire, ou donc de ces substances, comme on le dit en général, eh bien, elles vont être, nous serons invités à les visualiser aussi, à leur donner une dimension propre à la déité. Non. Voilà, au moment de l'initiation de la parole, alors à nouveau, nous allons recevoir cette lumière rouge qui provient de la gorge de la déité, hein, ça c'est ce que nous visualisons, et nous allons recevoir ainsi cette lumière rouge au niveau de notre corps, de notre gorge, et qui va symboliser la purification des voiles et négativité de la parole, et aussi le fait que nous recevons le pouvoir alors de la récitation du mantra, qui est le pouvoir verbal de la déité.
Hein.
Non.
Oui.
Non. Et cela place en soi, eh bien, ce qu'on appelle la graine du Sambhogakaya ou du corps de jouissance, qui est une des dimensions de la réalisation de l'éveil.
nyangalpo tene na yige dugdapta tokji jela samla shok.
Non, ensuite pour l'esprit, eh bien on va imaginer cette fois-ci de la déité, sous-entendu c'est toujours le maître spirituel indifférencié de la déité, donc de la lumière bleue jaillir au niveau du cœur, cette lumière bleue nous toucher au niveau du cœur, bleu nuit, et purifier les voiles et négativités de l'esprit. Nous recevons en même temps la bénédiction de l'esprit, donc de la déité. Et cela place en nous la graine qui se manifeste donc au moment de la réalisation, donc du fruit, sous forme du Dharmakaya, du corps de vacuité. Ensuite, nous pensons que conjointement, nous recevons les trois lumières correspondant au corps, parole et esprit conjoint, qui vont nous purifier cette fois-ci, que l'on reçoit en les trois lieux conjointement, qui vont nous purifier cette fois-ci des trois poisons, c'est-à-dire attachement, aversion, opacité
mentale.
Et là, eh bien, de nouveau, nous recevons le pouvoir de manifester, on pourrait dire, cette dimension conjointe des corps, paroles et esprits éveillés au moment donc du chemin et au moment du résultat, c'est-à-dire de l'obtention du fruit, donc de l'éveil, eh bien de pouvoir ainsi manifester ce qu'on appelle le Svabhavika Kaya, qui est le corps essentiel qui donc rassemble ces manifestations de l'éveil.
De
temps en temps, de l'ombilic, c'est-à-dire du nombril de la lumière jaune, émane et va nous toucher au niveau de l'ombilic. L'on reçoit alors l'initiation, le pouvoir dit de développement. Et cela place en nous ce qui est lié, quand on parle de développement, ce qui est lié aux activités, c'est-à-dire pouvoir ensuite manifester les activités paisibles, courroucées, de subjugation, de transformation, qui sont propres donc à l'activité éveillée sous toutes ses formes. Voilà, alors il est vrai qu'à partir du moment où nous avons reçu ces pouvoirs par le biais de l'initiation, eh bien il est important de garder, on parle de garder pur dans le sens où on ne va pas critiquer, mépriser donc cette déité, ni même celui, celle qui nous l'aura transmis. Mais bon, en même temps, recevant une initiation, cela suppose qu'il y a quelque chose à accomplir. Voilà, c'est comme, imaginons, passer un examen, on reçoit notre papier, donc il le dit, ou qu'il exprime, donc ensuite il faut l'exercer, l'exercice du métier, on pourrait dire. Donc, ça veut dire que pour chaque initiation, il y a quelque chose à mettre en œuvre, à pratiquer. Et c'est ce qu'on appelle des duntières, c'est-à-dire des pratiques régulières, en général, que l'on va donc devoir accomplir régulièrement,
quotidiennement.
Alors, soyons clairs, dit Lama, penser pouvoir tenir tous les engagements initiatiques, si on en parle à ce niveau-là, c'est très compliqué. Tellement il peut y en avoir. Quand on reçoit des grands cycles d'initiation, c'est carrément des quasi milliers d'aspects dont il est question. Donc ça peut commencer à faire beaucoup.
Non.
Honnêtement, si on reçoit, par exemple, toutes les initiations qui sont contenues dans les cinq trésors, qui est un ensemble de textes tout à fait considérable, eh bien là, c'est des centaines de milliers d'initiations et donc d'aspects qui sont présents dans cela. Et là, c'est la trace de ce qui était possible à un moment donné dans le temps, c'est-à-dire quand les pratiquants pratiquantes avaient le temps de recevoir cela et de mettre en œuvre tout cela. Donc là, maintenant, nos époques, il est bien clair, c'est plus du tout le cas. Donc nous sommes vraiment marqués par un ensemble donc de dégénérescence, donc de détérioration des conditions, sans aucun doute. Ce qui est complètement paradoxal, par ailleurs, dit Lama, parce que le monde progresse par ailleurs. Mais c'est un grand progrès pour le samsara. Ce n'est pas vraiment un grand progrès pour le dharma. Pour une raison simple, hein, plus le samsara progresse, plus les pensées qui nous agitent, ça va avec.
Hein.
Oui, et donc c'est un grand progrès pour les émotions perturbatrices aussi, sans aucun
doute.
Donc, clairement, dit Lama, du coup, le temps qu'on peut consacrer objectivement à la pratique spirituelle, il se réduit comme une peau chagrin. Mais, en même temps, eh bien, nous pouvons faire les choses quand même, et d'une manière très condensée, sans perdre quelque chose. Donc, là, c'est le moment d'en revenir à quelque chose de très essentiel comme pratique.
Non.
Oui, et là, quand en tibétain on dit Ningpo, on parle du cœur, c'est-à-dire de vraiment ce qui est essentiel dans le sens de vital. C'est vraiment ce qui est vital à l'individu. Non. Chenrezi, par exemple, faut quand même savoir que les possibilités de pratique, les formes de pratique de Chenrezi, elles sont juste considérables. Donc nous, nous n'en connaissons qu'une seule, mais en fait, il y en a beaucoup, beaucoup. Et donc, Om Mani Padme Hum condense la totalité de ces possibilités de pratique. Donc, normalement, évidemment, l'on reçoit l'initiation de Chenrezi, ça voudrait dire qu'en tout cas, chaque jour, nous allons à tout le moins réciter un mala, un rosaire de Chenrezi, de Mani
Padme
Hum. Alors ça, on arrive encore. C'est-à-dire, même si le samsara progresse et puis les dégénérescences sont marquées, donc on a quand même encore le temps de ça. Voilà. Pour Sangyemen là, pareil. Voilà, on arrive à dire son mantra Teyata Ambekade Bekade Maha Bekade Rata Samungate Soha. Pareil pour Guru Rinpoche, Om Ambekade Rupa Ma Siddhong. Voilà, donc tout ça sont des mantras très essentiels finalement et qui condensent beaucoup de choses. Et donc la fameuse pratique dite des 100 000 mantras qu'on récite tous les matins ici et donc vraiment rassemble un très grand nombre de ces mantras.
Mais
voilà, donc après, c'est à nous, à chacun, de voir comment organiser son temps, hein, ça c'est sûr. Et bon, voilà, maintenant, on est quand même tous un peu stressés, donc il faut voir comment, à l'intérieur de tout ce stress, on arrive à placer les choses.
Non.
Bon, de nos jours, on a des montres très efficaces, ça mesure le temps. Non, Alors, c'est vrai qu'il y a vraiment un côté où c'est pratique de pouvoir mesurer le temps à l'aide d'une montre.
Non,
mais en même temps, du coup, on se retrouve un peu coincé à l'intérieur de la mesure du temps. C'est-à-dire, on est pris comme ça en tenaille dans le temps qu'on a nous-mêmes mesuré. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut commencer à cette minute-là et pas à une autre, et puis terminer à cette minute-là et pas à une autre.
Non,
et donc voilà, hein, on voit le matin dans les rues, ben, tout le monde va à son travail en fonction de ça. Alors voilà, ça c'est un grand progrès.
Non,
alors avant qu'il n'y avait pas du tout de progrès, alors on y allait tranquille, hein, donc, pendant son temps. Oui, bah, ça me fait penser, dit Lama, à une anecdote. C'était à l'époque à Darjeeling, et donc certainement en arrivant déjà en exil, hein, où Dudjom Rinpoche, qui était un très grand maître de l'école Nyingma, donnait l'initiation, un cycle d'initiation dite du Kajie. Alors de nouveau, là, des centaines, milliers d'initiations.
Hein, vraiment.
Ah, ça a duré 1 mois et 20 jours. Voilà, et à la fin de l'initiation, donc Dudjom Rinpoche, au moment même où il avait fini de donner l'initiation, il dit, eh ben voilà, vous avez reçu l'initiation, et ben maintenant, à vous de tenir les samayas que vous ne pourrez jamais tenir.
Non.
Et donc il dit, eh ben voilà, on va faire simple, chaque jour, un mala de Guru Rinpoche et tout est compris dedans. Donc voilà, oui, et puis c'est vrai que de nos jours, ben, faut aussi voir les choses comme ça, et puis donc indiquer ce type d'attitude. Donc voilà, maintenant, encore une fois qu'on a pris, reçu une initiation, donc on pourrait dire le maintien de la déférence, mais dans le sens de l'absence de mépris à l'égard de l'aspect reçu et du maître qui nous l'aura transmis est important. Voilà, donc après, il y a quand même l'idée de faire au mieux, c'est-à-dire bien d'en revenir à quelques récitations qu'on considère comme essentielles et que voilà, on va garder maintenant, tout en étant conscient tout de même que quand on parle de cette infinité des divinités, c'est pas non plus autre chose que manifestation multiple provenant d'un seul domaine de manifestation. Alors là, il y a aussi notre intervention, c'est-à-dire que, comme ici nous le faisons, dit Lama, en récitant la longue dharani de la Vajravidharana avant les 100 000 mantras, puis les 100 000 mantras, c'est aussi à nous à ce moment-là à penser qu'en ces deux textes, eh bien, sont réunies les totalités des récitations qui gardent, qui maintiennent ces liens initiatiques que nous avons. Et c'est vraiment d'un très grand bienfait.
C'est là-bas.
Voilà. Oui.
Dans l'enseignement, vous avez beaucoup parlé, enfin, surtout aujourd'hui, mais enfin, les autres jours aussi, de la Kalpa Paramita.
Oui.
Et donc, il y a le. Dans la Kalam, à la fin, il y a le.
Oui, c'est Ramningpo, le cœur de sagesse transcendante.
De la sagesse transcendante.
Oui. Ta, vous avez entendu?
Non.
Non, bon voilà. Là, c'est le Shirab Ningpo, le cœur de la sagesse transcendante qui est évoqué, qui est effectivement présent à la fin de la pratique de Mahakala. Donc, si Lama pouvait peut-être apporter un éclairage sur cela, la manière de le méditer ou autre. Tamarong, c'est que tout tenez Shirab Ningpo, c'est que tenez ta, pendant Mahakala qui joue là, tenez Dungyore, voilà. Tenez, Chirtang, tenez ta, quand t'es tenda.
Shirab Ningpo, Mahakala qui joue là, yina, mina, Shirab Ningpo, quand t'en as déjà.
Non, alors bon, déjà. Là, on peut le placer n'importe où. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut le placer après la pratique de Mahakala. Non, mais Lama commence par ça. Non. Ensuite, le Shiram Ningpo, le cœur de la sagesse transcendante, ça exprime le sens de la vacuité.
Mais mon bonheur.
Et puis dans le sutra, il y a beaucoup de yapa, 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 yapa.
Non.
Alors c'est sûr que si on ne comprend pas bien le sens de tout ça, en récitant le sutra, on se dit, bah il
n'y
a rien.
Non,
voilà, donc au plus court, on peut se dire, bah il ne doit pas y avoir. Ça, c'est la formule. Il ne doit pas y avoir. Oui ? Attends, je suis derrière toi. Oui ?
Le rapport justement entre les sons et les mantras et les mantras.
Oui ? Hein?
Quel impact en fait
de
ça? Quel est le rapport vraiment
profond entre les deux? Ah, non. T'es un, c'est que t'es un, qui
drague,
voilà. T'es un drague, t'es un drague, ne pas, voilà, t'es un candé douce.
Ne pas, t'as pas, mais je suis un peu pour toi.
Non. Le pouvoir est très puissant.
T'es ton, de, n'attends, tu regardes, dans la sopa, tu n'en as pas, voilà.
Non.
C'est
très important, donc du coup, au moment où on récite, que ce soit d'ailleurs des mantras, que ce soit des sutras, que ce soit des prières, mais là nous parlons des mantras, qu'à ce moment-là, nous ayons vraiment conscience qu'il y a à la fois des êtres qui possèdent une forme, certes, mais il y a aussi énormément d'êtres qui ne possèdent pas de forme, qui sont des êtres invisibles pour nous. Au moment de réciter ces mantras, il est très important d'avoir conscience que nous sommes entendus, dans le sens précis où l'on va penser que toutes ces entités, à la fois, encore une fois, possédant un corps physique comme ne possédant pas de corps physique, entendent ces mantras.
Pena. Tanda ngangbom ge gola ngaro tanda tongbe ngola ro ni ke 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 jemden de tbo ombo sembe yonsu zo ba ho da ho za ge ro ni de sa ba se de ngaro son ge ka ke to ba yin son ge to ba.
Et on le voit d'ailleurs. On le voit, n'est-ce pas, au début des 100 000 mantras, l'on indique la visualisation à produire. Et donc, ça veut dire que, avant, donc, c'est ce qu'on récite, mais en même temps, on visualise quelque chose, c'est-à-dire que nous nous visualisons à ce moment-là comme le Bouddha Shakyamuni, nous sommes le Bouddha Shakyamuni, nous sommes vraiment le Bouddha Shakyamuni, complètement rayonnant de lumière, irradiant de lumière. Et à ce moment-là, nous sommes donc le Bouddha Shakyamuni, nous sommes conscients que de notre Ushnisha, c'est-à-dire de notre protubérance crâniale, comme de ce point qui marque donc forcément nos deux yeux, vu que nous sommes le Bouddha à ce moment-là, et bien de la lumière émane dans toutes les directions et qu'elle va emplir la totalité infini de l'espace, et que cette lumière et cette donc audition des mantras est perçue par tous les êtres sans aucune exception.
Non,
et nous allons réciter ces mantras vraiment dans cette présence, quoi, nous sommes vraiment cette présence-là, et nous allons penser que tous ces êtres qui donc entendent le son de ces mantras, à l'instant même où ils entendent ces sons, ils sont purifiés de tout leur voile, de négativité, faute, transgression. Et c'est vraiment comme du givre qui viendrait à fondre dans l'instant même où ils sont touchés par la lumière du soleil. Non, et là vraiment, c'est un bienfait tout à fait extraordinaire et particulier qui est développé et obtenu.
Non.
Au départ, donc, on l'a dit, on récite la Dharani de la Vajravidharana. Non, et bien là, pareil, c'est-à-dire, nous récitons, on pourrait dire, il y a une partie en prose avant le mantra, donc la Dharani, puis ensuite, il y a de nouveau une partie en prose. Il est vraiment bien, dit Lama, de prendre son temps, de lire attentivement ce qui est récité avant et après le mantra, qui sont des indications vraiment importantes quant au sens du mantra et au
pouvoir.
Oui, parce que ici, en fait, l'aspect invoqué à travers cette Dharani, eh bien, n'est autre que ce qui rassemble la totalité de la force et de la puissance de tous les Tathagata. Voilà, donc ensuite, donc dans cette deuxième partie que l'on récite en prose après, c'est versifié, hein, mais après le mantra, eh bien de nouveau, il y a l'idée, alors là, tout le texte ne me revient pas là dans l'immédiat par cœur, dit Lama, mais en clair, c'est l'idée que cela va purifier des influences néfastes, des obstacles, etc. Donc vraiment, là, de la part de chacun, il est nécessaire, si l'on s'adonne à cette pratique, donc de lire attentivement ces parties et de vraiment comprendre le sens. Et quand il y a des mots qui ne sont pas clairs, si on ne comprend pas le sens, de poser les questions et puis d'éclaircir ce sens. Donc c'est une pratique en soi, hein, vraiment. Voilà, donc concernant la question sur le Shiram Nimpo, le cœur de la sagesse transcendante, on le récite aussi ainsi parce que c'est une manière de combiner plusieurs aspects dans un même temps. Et puis aussi, on récite en plus, dans la pratique de Mahakala, à la suite de pratique de Mahakala, on récite aussi Sengdongma, c'est-à-dire la Dakini à face de lion, qui est là un aspect qui va protéger des influences néfastes, des magies noires, des sorts, par exemple. Non, mais n'est-ce pas, encore une fois, la Prajnaparamita au cœur de la sagesse transcendante, c'est le sens de la vacuité. Non. Alors, en récitant ce mantra, c'est aussi une manière d'établir le sens de la vacuité. Voilà, ben ça me fait penser, là, tout à coup, à Dilama, une fois, c'est un échange fameux, c'est un échange entre trois disciples d'Atisha et Atisha. Alors bon, en précisant, Dilama, que Ceux qui posaient la question étaient très érudits et Atisha était très érudit. Donc c'est quand même une situation particulière. Et donc, il demande à Atisha, entre les différents dharmas, quel est le dharma le plus sublime? En fait, la question, c'est plutôt même, quelle est l'érudition la plus grande? Et Atisha répond, en fait, l'érudition et la connaissance du dharma la plus grande, c'est d'avoir réalisé l'absence de soi, c'est-à-dire l'anatman, le non-soi. Quelle est l'excellente conduite ou la conduite par excellence, la conduite éthique par excellence? Et Atisha répond en disant, c'est avoir maîtrisé son propre esprit. Ça veut dire
en...
Ici, Dilama, ça signifie...
Non,
ça signifie ne pas être l'objet de nos propres perturbations mentales, mais ça signifie aussi maîtriser la force, la puissance de nos perturbations mentales. Ils poursuivent, demandent, quelle est la plus grande des qualités, ou les plus grandes des qualités? Atisha répond disant, la plus grande des qualités, c'est d'avoir de la bonté à l'égard d'autrui. C'est très pratique parce qu'en fait, c'est très simple et très aisé à mettre en œuvre, tout ça. Et il poursuit disant, et parmi les instructions libératrices, quelles sont les instructions libératrices les plus profondes? L'instruction libératrice la plus profonde, répond Atisha, c'est constamment d'observer son propre esprit.
Non.
Et en fait, à force ainsi, dit Lama, d'observer son propre esprit, comprenons bien, dit-il, que c'est l'esprit qui s'observe lui-même, eh bien, dans ce cas, on finit un jour ou à un moment donné à pouvoir se libérer même de l'idée de quelqu'un qui regarde quelque chose et de quelque chose qui est regardé par quelqu'un. Et ensuite, il pose la question suivante, demandant, parmi les antidotes, quel est le plus sublime des antidotes?
Non.
Et Atisha répond en disant, c'est le fait de pouvoir savoir que tout phénomène est libre d'une existence propre. Non. Ils poursuivent demandant, quelle est la conduite la plus excellente? Et Atisha répond en disant, être en parfait désaccord avec la manière ordinaire de voir les choses. Mais c'est clair, dit Lama, ça n'a rien à voir avec le fait de se poser en conflit ou en harmonie, en disharmonie avec les gens. Ça n'a rien à voir avec
ça.
Non, ça veut dire que intérieurement, en termes d'objectifs d'existence, nous ne voyons pas seulement le fin mot dans cette existence, mais nous considérons aussi toutes nos existences.
Non.
Non, voilà. Donc après, qu'on soit en accord, pas en accord, c'est pas ça la vraie question. Et finalement, l'idée, c'est de faire en sorte de réaliser l'éveil. Alors maintenant, évidemment, voulant réaliser l'éveil, on va se retrouver parfois en porte-à-faux ou en disharmonie avec la manière de faire générale. Ils poursuivent et posent la question, parmi les différents accomplissements, quel est l'accomplissement le plus sublime ? Yatisha répond disant, c'est le fait de voir petit à petit, disparaître l'influence de ses pensées et des émotions perturbatrices. Il poursuit et demande, quel est parmi les différents signes d'accomplissement, le signe d'accomplissement ? Le signe d'accomplissement, le signe d'accomplissement, dit Atisha, c'est de voir petit à petit, diminuer les désirs insatiables et nos attachements. Vous comprenez?
Oui.
Très bien.
Tenez. Jimba. Jimba que tu as Jimba y a que
ensuite, il poursuit et pose la question. Parmi les différentes formes de générosité, quelle est la générosité sublime?
Jimba chute, tu vas quand la yon chagime à pas.
La générosité sublime, répond Atisha, c'est de n'avoir strictement aucun attachement pour quoi que ce soit.
Quand la yon chagime à pas le ton yonata, Jimba que j'ayon mal.
Non. Car en fait, dit Lama, à partir du moment où nous sommes libres de tout, eh bien, il y a de la place pour la générosité.
Mais là, je pas que ça ne va. C'est là, mais qu'on renaît, pas mais.
Et on revient encore une fois sur cette fameuse phrase de Milarepa, ou instruction de Milarepa, qui dit, là où il n'y a plus d'avarice, eh bien, c'est l'essence de la générosité.
C'est comme que tu ne dis pas qu'il.
Ils poursuivent et demandent quel est le sublime éthique ou la sublime éthique. Et Atisha répond, c'est de pacifier son esprit. Oui, c'est de pouvoir pacifier son esprit agité. Et ils poursuivent, demandent, quelle est la plus sublime des patiences? Non. Et la réponse d'Atisha dit, c'est l'humilité.
Mensa.
Mensa.
Mensa, c'est quand même. On a l'air.
Non. Donc, Cathy pose la question, je ne comprends pas le rapport entre l'humilité et la patience. Ça veut dire finalement rester dans... Dans le sens où, dit Lama, si nous sommes dans cette situation d'humilité, l'on va rencontrer en fait très peu de jalousie à son écart. On rencontrera très peu de gens qui chercheront à nous nuire.
Ce sont...
Donc, du coup, bah forcément, autrui ne va pas nous jalouser, on retrouvera peu de personnes voulant nous nuire. Ça suppose, bien sûr, cette humilité, qu'en fait, nous nous sommes affranchis, évidemment, de toute superbe, de tout orgueil. Et donc, du coup, eh bien, c'est la patience excellente. On peut tout endurer dans ce cas. Il faut le comprendre comme ça aussi.
Non.
Oui, encore une fois, dit Lama, vraiment, si l'on est toujours dans cette position finalement d'humilité intérieurement, on ne rencontre pas beaucoup d'adversité. Non. Oui, ça nous fait revenir encore une fois à cette phrase d'Ashisa qui dit faire en sorte qu'il ne puisse, à la rigueur, qu'il n'y avoir que de l'eau qui puisse passer sous soi, hein, dans le sol. Dans le sens aussi, dit Lama, qu'en fait, nous cessons de devenir une circonstance du développement chez autrui, du développement de ses propres émotions perturbatrices. Et nous nous retrouvons aussi nous-mêmes, du fait de cette qualité d'humilité, finalement très peu entourés d'adversité, du coup. Alors attention, faut vraiment faire attention. Faut faire attention, dit Lama, de ne pas non plus tomber dans le piège qui consisterait à dire ah, ouais, je vais rester le plus humble possible, comme ça je vais voir quel tour ils vont me jouer, attendez, ils perdent rien pour attendre. Hein, parce qu'il peut y avoir des fausses humilités aussi. Hein.
Ah, tenez, Zonjuke, Chukai.
Non. Ils poursuivent, posent la question, quelle est la plus sublime des diligences ou des courages?
Zonjuke, Chukai, Jikdinga, Chavalu, Tomatis.
Et il répond en disant, avoir abandonné toute préoccupation pour des activités ordinaires.
Akoch.
Comprends.
Ah, ça. Tene, something kanone, something yashukais.
Ils poursuivent et posent la question. Parmi les stabilités mentales, quelle est la plus sublime stabilité mentale?
Oh, something chou lo ma jupa.
Il répond en disant ne pas fabriquer avec son intellect.
Lo ma jupa sa hakondo.
Comprenez? Comprenez? Ils poursuivent, demandent, parmi les sagesses, quelle est la plus sublime? Être libre de la saisie d'un soi, d'un jeu. Quand ce soit, en quelque circonstance que ce soit, être libre de la saisie d'un jeu. Ni saisir je, ni saisir mien, c'est-à-dire ce qui se rapporte à notre jeu.
Non.
Alors bien sûr que je... C'est la racine de l'affaire, hein, que nous
saisissons.
Après, il y a tous les « nghe » en tibétain, c'est-à-dire on rajoute juste un petit génitif et ça devient « mien »,« mon »,« mienne », etc. Et là, il y en a une collection. Mais bien sûr, si l'on s'affranchit de cette première saisie autour d'un « je », tout ce qui est mien, mon, mienne, etc., ben, il n'y a pas.
Tiens, nous, on dit, tata, tu peux te dire, son mot, que ton idée, le papa, comme là, tu n'es pas dans le nez, dans le tchou, dans le nez, dans le concert, dans le nez, dans le nez, dans le papa.
Donc voilà, que ce soit dans la démarche du Hinayana ou du Mahayana, ça n'y change pas grand-chose à ce stade. C'est-à-dire qu'il est bien question de réaliser les deux non-soi, c'est-à-dire le non-soi de l'individu et le non-soi des phénomènes.
Non,
et c'est vrai que déjà rien que dans notre corps, si on regarde bien, tout ce qui sont les attributions du je, c'est-à-dire les mon, ma, mon, mien, mienne, eh bien, elles sont considérables.
Non.
Oui, ma tête, ma jambe, mon bras, etc.
Mais
on ne s'arrête pas là. Évidemment, l'emprise de notre saisie se répand sur toute chose. Donc on va dire ma maison, mon terrain, mon pays, etc.
On dit, il y a un homme qui a été en train
Non. À l'époque, quand le samsara n'avait pas tant progressé, on entourait un petit peu moins les terrains avec une barrière. Non. Même l'idée de mon terrain, on
n'était
pas...
Non.
Oui. On n'était pas très très conscient et lucide des limites exactes de son soi-disant terrain. On avait plutôt tendance à parler en termes de ce côté de la montagne et de l'autre côté de la montagne. On ne passait pas son temps à mesurer très exactement chaque once de terrain. Non. Et là maintenant, on entoure le terrain avec du fil de fer barbelé en plus. Et donc voilà, et on a tellement progressé qu'on en est arrivé là. Yeah, tenez qui, tenez Jaminda, tenez Jawala, tenez Jamayon, y'a get up. Non, alors c'est vrai, avant pour parler d'illusion, c'était compliqué. Donc, on employait l'image du miroir. On disait comme un reflet dans un miroir, c'est-à-dire quelque chose qui apparaît mais qui n'est pas vraiment là.
Non,
en plus, miroir, il faut s'entendre, hein, parce que ce n'était pas du verre, c'était simplement du métal poli ou une matière très dure, très polie pour y voir un reflet. Non, alors maintenant, c'est extraordinaire, parce qu'en termes d'illusion, on voit des vivants, des morts, des vieux, des jeunes, on les voit se refléter dans les images. Non, alors voilà, évidemment, ce sont des prodiges technologiques, sans aucun doute, mais il y a des problèmes aussi. Il poursuit et il pose la question, et parmi les maîtres spirituels, quel est le maître spirituel sublime? Celui qui se révolte contre ses propres erreurs.
À cause
non,
vous
comprenez. Ils poursuivent et demandent, parmi les instructions libératrices données par le maître spirituel, quelle est la plus sublime? Eh bien, c'est, Atisha répond, c'est l'instruction spirituelle ou libératrice plutôt qui pointera du doigt le défaut. Non. Donc vraiment, c'est pointer du doigt. Ça veut dire elle, faire s'élever, faire sortir, dire c'est ça ton problème. Ou ton erreur, n'importe. Voilà, ça c'est la plus sublime des instructions libératrices. Alors là, de nouveau, on a tellement fait de progrès qu'aujourd'hui, si on donne de sublimes instructions libératrices de ce type, c'est pas sûr qu'on ait envie de les entendre.
Hein.
Ça nous va pas trop. Ils poursuivent, demandent, parmi les amitiés, quelle est l'amitié la plus sublime ? Et Atisha répond, disant, l'amitié la plus sublime, c'est notre attention, vigilance. Et en fait, ce qu'il dit ici, dit Lama, eh bien, c'est que l'amitié la plus fidèle que nous puissions avoir, c'est notre capacité propre à développer cette, cette qualité d'attention vigilante. Et ensuite, il poursuit et dit, et demande, quelle est l'incitation à la pratique du dharma, l'incitation la plus sublime ? Et il répond, la meilleure des incitations, c'est les ennuis, les maladies et les obstacles. Et les souffrances, évidemment. Ça devrait être possible. Et il poursuit, demande, parmi les méthodes, quelle est la méthode la plus sublime ? Et il répond en disant, c'est le fait de ne pas altérer, de ne pas vouloir modifier, de ne pas vouloir, oui, modifier quelque chose, altérer. C'est le fait, dit Lama ici précisément, eh bien, de cesser cette espèce de discours intérieur en fait qui nous porte à nous dire il me faut ça, il me faut pas ça, faudrait que je fasse ça, faudrait pas que je fasse ça, etc. Avec toujours cette idée en toile de fond, être à la fois dans cette qualité de non-distraction et à la fois de non-altération de ce qui est en train de se produire comme état. Sublime moyen. Ils poursuivent et demandent quel est parmi les moyens d'agir pour autrui le moyen le plus sublime. Eh bien, ouvrir la porte du dharma pour les êtres. Parmi ce qui est bénéfique, parmi les bienfaits, quel est le bienfait le plus sublime, demande-t-il. Eh bien, de contribuer à ce que les pensées, donc sous-entendu la d'autrui, les pensées néfastes, nuisibles, eh bien petit à petit soient transformées, qu'ils puissent s'en affranchir. Voilà, voilà ce qui est dit ici.
J'ai été.
Ça vous semble OK ?
Non.
Et après, c'est Dom Tompa, fameux disciple d'Atisha, qui pose des questions. Et qui demande à donc son maître Atisha, qui lui demande quel est le dharma ultime. Et Atisha répond, la vacuité et la compassion.
Non.
Oui, il répond en disant vacuité, vacuité et compassion en sont l'essence. Non, ce qui est une façon pour lui de dire médite indifférenciément, sans faire de différence, ou en mêlant la compassion et la vacuité. Et là, par exemple, dit-il, il y a cet exemple de la panacée, c'est-à-dire vraiment du médicament qui guérit toute maladie. Et donc il dit à ce propos, eh bien, réaliser le sens de la vacuité, c'est comme posséder cette panacée, ce médicament ultime qui du coup, eh bien, résout le problème de toute affliction mentale, de toute émotion perturbatrice. Mais il continue à lui poser des questions et lui dit, c'est tout de même étrange parce que beaucoup diront qu'ils ont réalisé la vacuité, mais malgré tout, eh bien, l'on ne voit pas manifestement d'émotion perturbatrice qui est vraiment disparue. Oui, beaucoup diront, donc j'ai réalisé la vacuité, mais ils ne s'affranchissent ni de leur attachement, ni de leur aversion. Et Atisha répond en disant, eh bien pour eux, ce qui est vacuité, c'est-à-dire ce qui est vide, ce sont leurs mots. Il dit, c'est vraiment un individu à réaliser le sens de la vacuité, autant vraiment comme une réalisation, alors son corps, sa parole et son esprit, son individu en totalité, quand il se déplace, c'est comme s'il se déplaçait sur du coton, c'est-à-dire avec la souplesse d'une démarche sur du coton, avec une attitude paisible et pacifiée. Ce qui signifie que donc son corps, sa parole et son esprit, l'individu entier, se pacifie. Non. Et à ce moment-là intervient Aryadeva qui dit, même ne serait-ce que d'avoir une représentation, une certaine compréhension de la vacuité, déjà cela pacifie le corps, quoi, l'individu dans le sens corps, parole, esprit.
Malopa, dona a dona me power tiktok non si nyamon tambye ji nyamon do tsu yo de son.
Alors là, évidemment, reprenant cette instruction d'Atishadi, eh bien, c'est vraiment, si en plus l'on réalise vraiment le sens de la vacuité, c'est posséder cette panacée, ce médicament qui guérira de tous les maux et qui permet de s'affranchir alors vraiment de toute émotion perturbatrice.
L'homme dit tu es tamti, dit qu'on l'a yoré, dit non degré.
Et il poursuit en disant tous les chemins se condensent en cela. Et quelqu'un, alors là, je ne sais plus trop qui pose cette question, mais quelqu'un pose la question en disant « Mais finalement, comment doit-on vraiment comprendre cette idée comme quoi en la vacuité viendrait là se condenser la totalité du chemin ?»
L'homme parle de Chimbato, je vois. Son dit que l'homme, j'en dis que l'homme parle de Chimbato, je vois.
Non. Et en fait, là, ce qui est induit, dit Lama, c'est qu'en fait, c'est une manière d'évoquer les six paramitas, c'est-à-dire ces six vertus transcendantes qui, exposées par le Bouddha, deviennent le chemin vers l'éveil.
L'homme dit que tu as dit qu'on a quand même dit de Dieu, c'est là, tu as vu Jeanne. L'homme dit que tu as dit par de Chimba, donc qu'on a dit que
non. Et donc Atisha va dans ce sens et dit effectivement. Eh bien, c'est cela qui rassemble en soi la totalité du chemin. Ce sont l'exercice des six vertus transcendantes.
Non.
Et il dit, si vraiment l'on réalise le sens de la vacuité, cela signifie aussi que toute forme à la fois de saisie, mais aussi d'attachement à l'égard d'un phénomène, qu'il soit extérieur ou intérieur, a totalement disparu. Donc dans ce cas, eh bien, il est simple alors que se manifeste cette vertu transcendante de la générosité.
Mais pas là.
Et si disparaît donc de ce fait, du fait de la réalisation de la vacuité, si disparaît donc toute saisie, ben ça veut dire aussi que toute possibilité d'être entaché d'une manière ou d'une autre par les négativités, disparaît aussi. Et donc, c'est là, en cette absence de saisie découlant de la vacuité, et à sa réalisation, c'est en l'absence de la saisie ou de toute saisie que réside alors la vertu transcendante de l'éthique. Et si, alors, disparaît aussi, du fait de cette absence de saisie, hein, c'est une espèce d'enchaînement logique, du fait de cette absence de saisie, disparaît l'idée d'un jeu et ce qui se rapporte à un jeu, toute possibilité de colère disparaissent aussi. Et donc, c'est alors la vertu transcendante de la patience. Et si notre goût et notre joie est grand à la réalisation de ce sens, eh bien alors, en cela s'exprime la vertu transcendante du courage. Non. Et si, à l'égard de cette absence de saisie, finalement, nous sommes sans distraction, eh bien, en cela même, se manifeste la vertu transcendante de la stabilité mentale.
Qu'on l'a yon, korsum, c'est korsum, c'est le vrai.
Non.
공원아용 콜섬 메도페 콜섬 공원아용 콜섬 더 콜섬 더 도페 도페 이당 저베나 이당 저베나 시럽지 파르데 치바로 히메 지지 마바요소.
Et donc de ce fait, si donc nous nous affranchissons complètement de toute représentation mentale, parce que nous sommes alors complètement libres de l'idée même d'un sujet qui agit et d'une action produite par le sujet, eh bien nous sommes alors dans la vertu de sagesse transcendante. Et quelqu'un pose la question alors, serait-il possible de réaliser parfaitement l'état d'éveil du fait même de la vue et de la méditation de cette vacuité? Il répond, rien de ce qui se manifeste et de ce qui est entendu est autre chose que l'esprit lui-même. La nature même, la nature éveillée de l'esprit, est vacuité. Et si est réalisée l'indifférenciation de cet aspect connaissant de l'esprit et de la vacuité, alors cela est la vue sublime. Et si l'on peut alors demeurer dans cette indifférenciation sans distraction aucune, cela est la méditation.
Non.
Et si nous ne séparons pas, départissons pas ni de cette vue sublime, ni de cette méditation sublime, et qu'alors nous agissons en comprenant en fait que tout ce qui est produit l'est dans la conscience du fait d'être libre d'existence propre, semblable à un rêve, alors c'est le comportement sublime. Et donc dans ce cas, cette réalisation-là qui est la nôtre, même dans nos rêves, elle se manifestera. Et si cette vue, méditation et action, eh bien, nous la cultivons, nous n'en sommes jamais séparés, au moment de notre mort aussi, elle se manifeste. Et ainsi, alors, cette vue, méditation et action sera agissante dans le bardo, dans les étapes intermédiaires. Nous réaliserons alors pleinement la réalisation de l'éveil. Voilà, dit Lama, ce qui est dit à propos de la vacuité. Voilà ce qui se dit de manière très profonde. Ça vous convient? Non. Tu dis y a-t-il des questions à partir de là? Si jamais il n'y a pas de questions, on en reste là.
Alors,
ah là, il y a le barbu qui lève la main. Tietzang, Yewa medure, voilà, yemana kanga, tene tombares, tene hako, mene, tene tona, tedu, tene leyu samarere, voilà. Leyu samarere, lesa tugiomarere, voilà.
Kavisa, tesa tugumare.
Non, évidemment, il n'y a plus du tout de karma accumulé, plus du tout.
Lesa, pas tomki, ma nyong de 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 ny
Non, ce qu'il faut vraiment comprendre, dit Lama, c'est que c'est un processus qui est comme, c'est comme des vases communicants, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont il est question, c'est que c'est nos conditionnements qui, petit à petit, et d'étape en étape, diminuent. Mais en même temps, c'est là le vase communicant. C'est-à-dire plus nos conditionnements disparaissent, plus en même temps, c'est la sagesse qui monte. Et c'est pas d'un coup, hein. Bah, vision. Quand on est dedans, c'est pas une vision, hein. Tenez, non, tenez, il y a beau taillon de tenez, pena tawa, pena chog tawa, tenez, tots années, tietan tenez, congresse que tout tenez, ta laissez, et tenez, légum tessing, et tenez, yosa marèche, voilà, tenez, et yemena tenez, pena, n'a so tamal pas que tawa yona, tenez, légum de yore, tenez, et
ben. Il n'a de tawa mat. Tawa yonda mato nada jumre mintu mirwa. Tawa yonda to chana minja minje ke tuwa ta tra sarwa.
Non, bah, de nouveau, faut plutôt essayer de le comprendre comme ceci, dit Lama. C'est-à-dire, tant que nous sommes dans une non-réalisation de la vue ultime, bah alors évidemment, il y a quelque chose qui mûrit. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose là qui est là pour mûrir. Maintenant, quand on est dans la réalisation de la vue ultime, il n'y a plus personne sur qui pourrait mûrir un être, un acte. Oui, le terrain dans le sens lieu de l'action. Et tu es ta cassant la mala, tenez ta legi shingsan en chinre, voilà, tenez indu tenez legi shingsan, dit tenez gatsu qui s'aimerait. Legi shingsare, voilà, tenez tabia qui shingsade.
Tes autres, donc, qui est pas pour Thomas Saint-Roi.
Oui, bien sûr. Celui qui fait tout ça, c'est notre esprit, c'est la conscience. C'est le jeu de la conscience.
Chengi, lengi, Thomas Saint-Roi.
Non, mais ici, dit Lama, attention, on participe à toutes les étapes du film, on pourrait dire. C'est-à-dire, nous faisons et nous prenons. C'est-à-dire, c'est nous qui agissons et c'est nous qui recevons tant que l'esprit fonctionne comme ça. Oui, bien sûr que quand on met tout cela en relation avec les quatre vérités des nobles, ben on voit bien, finalement, quand on parle de l'origine de la souffrance, hein, eh bien, qui est la deuxième des quatre vérités des nobles, c'est l'ignorance fondamentale.
Ta, marik pa se da me pa la me pa marik pa on machip.
Non, mais quand on parle d'ignorance fondamentale, c'est pas le fait de pas savoir, c'est le fait de croire qu'un je existe alors qu'il est libre d'une existence propre. C'est ça l'ignorance.
Tenite marik pa te que chale tamche.
Non.
Tenite dongarje.
Et donc, après, il y a des actions qui sont produites à partir de cette ignorance-là. Et qui sont toutes ces actions conditionnées qui sont fondées dans cette fiction, ou à partir de cette fiction. Et donc, toute la souffrance découle de ça. Et c'est pour ça qu'ensuite s'enchaîne le samsara, qui est rien d'autre que les existences conditionnées par ça. Alors après, évidemment, si on veut rentrer dans le détail de toutes les causes, de toutes les situations, de toutes les situations du cycle des existences, ça veut dire que là, il faut passer beaucoup de temps à décrire tout ça. Mais en clair et en somme, eh bien, l'origine, on pourrait dire, la cause fondamentale de ces existences cycliques et surtout donc conditionnées, c'est comme ça. C'est à partir de là.
Tenions, tada, Dieu l'homme qui était pas c'est quoi.
Non, mais en même temps, il y a parmi ces quatre vérités des nobles, il y a aussi la vérité du chemin.
L'homme qui était pas c'est parti tout le bas.
Non, et là on vient de l'évoquer, c'est aussi les six vertus transcendantes.
C'est une chose, quoi que des bas c'est quoi.
Non, et le fruit de cela, c'est la vérité de la cessation.
On est parti tout le bas que nous venons de partir là. Tenez, chose.
Alors, en fait, quand on parle de la cessation, ça veut dire la séparation, dans le sens où nous sommes libres, la séparation d'avec la souffrance, complètement. Et le fait d'avoir donc ainsi été jusqu'au terme du chemin des six vertus transcendantes. Oui, c'est ça. Oui, le monde, le support du périssable. Le résultat de ce conditionnement. Natsuki jikten inju tene. Natsuki lela tene tene chung yorebe. Natsuki jikten di, jikten singendi.
Ah, il y a l'aine qui est en
absolument. C'est quelque chose qui est aussi le produit de notre conditionnement.
Non.
Alors, bien sûr que quand on parle de cela ainsi, ça nous demande d'évoquer la notion de karma collectif, c'est-à-dire d'un conditionnement collectif, ce qui n'empêche absolument pas un conditionnement individuel. Yantene rang rang la tene ta le naminatso pulen naminatso yosare lencha naminatso yosare.
Ré.
Oui, bien sûr. Oui.
Moi j'ai une dernière question. En méditation, par rapport aux émotions perturbatrices violentes qui peuvent s'élever,
oui.
Par exemple, se mettre à pleurer
oui.
Sans pouvoir y faire quelque chose.
Oui.
Le fait de faire le travail de l'atome. De l'atome.
Oui.
D'essayer d'observer que ça vient d'une part, que ça vient d'une part, que ça vient d'une part.
Oui.
Fond,
hein.
Ça, pour moi, ça ne m'empêche pas de saisir le truc. J'arrive pas à m'observer.
Ok. Ta, Morang, vous avez entendu dans le fond? Oui, à peu près. Oui, c'est en clair, si par exemple une tristesse nous prend, je résume un peu, et qu'on aborde cet état, pardon ?
Un gros truc.
Donc, et qu'on aborde le gros truc avec l'acton, c'est-à-dire avec l'idée, ben, finalement, d'où cela vient, où cela est, où cela finit, puis qu'on se rend compte que ça vient de nulle part, ça reste nulle part, ça va nulle part. Et j'arrive pas pour autant, dit Yannick, à me défaire de cela. Donc, comment faut-il procéder, hein, c'est ça? Ta morang et c'est que d'autres n'est qu'elle si, ta. Ré, nato. Bon, ben, si tu n'arrives pas malgré tout à abandonner ça, c'est que la méditation, ce n'est pas encore ça. Non, parce que si tu passes ton temps à te dire « y'a pas, y'a pas, y'a pas », c'est le meilleur moyen pour qu'il y ait. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être bouddhiste ou d'être non-bouddhiste ou d'être n'importe quoi. Les phénomènes mentaux qui sont les nôtres sont incessants. Impossible, on peut même pas essayer de les compter. On y passerait notre vie qu'on n'arriverait pas. Donc, au moment où l'on médite Shiné et Lakton, hein, Shamatha Vipassana, l'instruction ou les instructions clés, c'est non distraction, non méditation, non fabrication, non altération. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'à ce moment-là, on ne va pas cogiter sur le passé. Ça veut dire, à ce moment-là, on ne va pas anticiper le futur. Ça veut dire que l'on ne va pas non plus réfléchir au présent. Mais en fait, ces deux instructions clés, dit Lama, c'est à la fois non-distraction, parce qu'on ne se fait pas prendre, mais à la fois sans saisie. Il n'y a rien qui est saisi. En fait, quand on parle de non-distraction et de non-saisie, en fait, la clé, c'est surtout la non-distraction. Si vraiment on est dans la non-distraction, il n'y a pas de mouvement. Les phénomènes mentaux n'ont pas de mouvement. Ils
ne
bougent pas. Mais attention, on parle là une minute, deux minutes de sans mouvement. Non, dans les sutras, qu'est-ce qui est dit, hein, juste pour bien se rendre compte dans la mesure des choses, c'est que si on a un insecte qui prend le temps depuis la base de notre nez pour arriver à la pointe de notre nez et que pendant ce laps de temps, en fait, évidemment très court, eh bien, nous demeurons dans cet état-là, eh bien, déjà, c'est la possibilité de purifier des obscurités qui sont là présentes depuis des aires cosmiques. Mais quand on médite, ben en général, soit on est agité, soit on s'endort. Donc, on ne reste pas. On n'est pas. Mais quand on est agité, on ne le voit pas. Donc, mais à force de méditer, on finit par, en cultivant cette qualité de non-distraction, déjà voir qu'on est agité. Et ça veut dire qu'il y a là la possibilité de se placer déjà en rapport avec l'instantanéité de l'esprit. C'est-à-dire qu'au même moment où surgit un phénomène mental, on est conscient de son surgissement. On le voit surgir, on prend note.
Et là,
évidemment, on est déjà presque en train de perdre le fil, c'est-à-dire que le phénomène mental risque déjà de partir faire son travail. Mais à cet instant clé, crucial, il est question là de ni chercher à abandonner ce qui est en train de se produire, ni chercher à retenir d'une manière ou d'une autre ce qui est en train de se produire. Donc ça veut dire en clair, et là ça revient directement à ta question, ça veut dire en clair que si à ce moment-là, on se dit « Ah, mais ça, ça ne me convient pas », eh bien, il nous faut à ce moment-là cesser d'interagir
ainsi.
Et donc, de la même manière, si à ce moment-là, on voit que s'élève quelque chose qui est de tout autre ordre et qui est très plaisant, on va vouloir se dire « Ouh, faut pas que j'oublie cet état ».
Non.
Non. Là, il faut revenir à l'instruction. Et il nous dit quoi, l'instruction, dit Lama? Elle nous dit faire aucune différence que le phénomène qui se produit apparaît comme agréable ou désagréable. Il n'y a aucune différence. Donc, ce qui est vraiment dit Lama, c'est vraiment rester dans l'observation de quoi que ce soit qui s'élève, quoi que ce soit.
Et
c'est le fait de persévérer dans cet exercice, donc vraiment de le réitérer encore et encore, qui va faire qu'alors nous allons pouvoir petit à petit, dit la main, mais vraiment petit à petit, s'établir par exemple 5 minutes, voire peut-être 10 minutes dans ce qu'on appellera la stabilité, mais qu'on comprend comme ça.
Okay.
Voilà ce qui est dit. Oui? Oui? Au sein du couple, le non-attachement. Vous pouvez pas. Franchement, la seule chose bien à faire, c'est de rester dans la bonté à l'égard de l'autre.
Oui,
le mieux dans ce genre de cas, eh bien, c'est de ne pas se quereller, c'est de rester ensemble. Voilà. C'est ok. On peut peut-être terminer là dans ce cas.
Tout dit-il.